Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Et aujourd'hui, on a décidé de se faire peur. À l'occasion de l'arrivée d'une nouvelle rubrique sur Disney+, qui s'appelle Star, et dans laquelle vous pourrez découvrir pas mal de films d'horreur, on va vous les détailler, et surtout on viendra sur l'âge d'or du genre, dans les années 70 et 80. Qu'en est-il aujourd'hui? Comment l'angoisse a-t-elle remplacé le gore? Et comment Hollywood, surtout, parvient-il toujours à nous faire aussi peur? Ce sera l'objet de notre récit dans un tout petit instant. 14h30, vous avez rendez-vous avec les films de ma vie, une personnalité qui répond à un questionnaire de Proust version cinéma, et aujourd'hui, c'est Cadmerade qui a accepté de se prêter au jeu. Alors, quel est son premier souvenir de cinéma?
Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe.
Eh bien voilà, c'est Bruce Lee pour découvrir la suite des souvenirs cinéma de Cadmerade. Rendez-vous dans une demi-heure. Et puis juste après, j'accueillerai mes collègues critiques pour débattre des films sortis en DVD, VOD ou sur vos plateformes. Au programme aujourd'hui, Mon Inconnu qui arrive sur OCS, Miss en DVD, Radioactive sur MyCanal et I Care a Lot, ça c'est sur Netflix. Voilà pour le programme de votre Clap qui commence donc tout de suite par notre récit consacré aux films d'horreur.
Europe 1. Le récit.
Commençons d'abord par un Cocorico. Le premier film d'horreur est français, figurez-vous. On le doit à Georges Méliès. Son titre, Le Manoir du Diable. On est en 1896. Et ce film, à la lisière du fantastique qui dure un peu plus de 3 minutes, raconte l'histoire d'une chauve-souris qui se transforme en diable. Aux États-Unis, il faudra attendre 1925 pour qu'un long-métrage terrorise toute une génération. Je parle bien sûr du Fantôme de l'Opéra, sorti en 1925, adapté du roman de Gaston Leroux. L'histoire d'Éric, un être à moitié fou, rejeté par la société, qui vit dans les sous-sols de l'Opéra Garnier. Amoureux de l'une des cantatrices, il travaille à ce qu'elle obtienne un premier rôle, mais en échange, lui demande son amour. Elle va devoir tout faire pour échapper à son emprise. Le Fantôme de l'Opéra qui a été adapté une petite dizaine de fois sur grand écran, notamment par Dario Argento.
Nombreux sont ceux qui pensent que les fantômes n'existent pas. Mais la force de la passion peut les ramener à la vie et provoquer la mort. Il est revenu.
Alors ce Fantôme de l'Opéra, il va inspirer toute une série de films d'horreur, des freaks films qui mettent en avant des créatures humaines mais difformes, type Elephant Man ou Freaks, justement, sorti en 1932, signé Todd Browning. Todd Browning qui deviendra l'un des spécialistes du genre. En 1931, il imagine aussi le premier Dracula parlant. L'acteur Christopher Lee reprendra le rôle quelques années plus tard et restera comme LE Dracula dans l'imaginaire populaire. Écoutez-le en parler sur Europe 1 dans un français impeccable.
J'ai reçu des lettres des enfants âgés de 5, 6, qui m'ont écrit « J'ai vu le Dracula 3-4 fois, ça m'a beaucoup plu, mais je crois à cet âge qu'on n'a pas beaucoup de peur, vous savez, parce qu'on ne comprend pas parfaitement ce qui se passe devant les yeux. J'aime toujours jouer dans ces films parce que c'est beaucoup plus intéressant pour le comédien de les faire avec de la conviction. »
Mais essayez de comprendre. Ce n'est plus Lucie, votre sœur bien-aimée. Ce n'est plus que son corps, possédé par la volonté malfaisante de Dracula.
La même année toujours, en 1931, donc, sort un chef-d'œuvre de l'angoisse, réalisé par celui qu'on surnomme le maître des ténèbres. C'est M le maudit, d'un certain Fritz Lang. L'histoire d'un tueur d'enfants qui terrorise la ville. Le commissaire Lohmann décide de nettoyer les bas-fonds, mais gêné par toute cette agitation, la pègre prend les choses en main, mandatant les mendiants et clochards pour qu'ils surveillent chaque recoin de cette ville. Fritz Lang aussi était venu parler du cinéma d'horreur au micro d'Europe 1.
Je crois que dans tous mes films, c'est la lutte des êtres humains contre le destin. Je ne crois pas qu'ils sont macabres, je ne crois pas qu'ils sont violents. Je vous dis quelque chose de la violence. Je crois qu'après deux guerres, la violence était et la seule chose que les gens d'aujourd'hui ont peur. Je crois que la violence est devenue un moment dramaturgique dans les films.
Il faut bien dire qu'à cette époque-là, à ses débuts donc, le cinéma d'horreur est surtout incarné par des créatures inquiétantes dont le public est friand. C'est le cas de Frankenstein aussi, ou du Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Non, arrêtez. N'entrez jamais dans ce château. Ne cherchez pas à découvrir le terrible secret enfermé dans ses murs. À moins que vous ne vouliez descendre la dernière marche de l'horreur.
Mais petit à petit, le cinéma s'inspirant de la vie, le cinéma d'horreur aussi va faire évoluer ses codes. Dans les années 50, les États-Unis sont en plein McCarthyisme. C'est aussi l'époque où l'on découvre et l'on craint le nucléaire. Et c'est là que la science-fiction va commencer à teinter les films d'horreur. Exemple avec le film La chose d'un autre monde, sorti en 1951, et que John Carpenter réadaptera un peu plus tard. L'histoire d'un extraterrestre végétal retrouvé dans la banquise par des militaires. Ils veulent le tuer alors que les scientifiques, eux, rêvent de l'étudier. Problème, l'extraterrestre va se réveiller et semer le chaos.
Il dispose d'une puissance extraordinaire. C'est du sang qu'il y a sur le bras, n'est-ce pas ?
Oui, mais ce n'est pas son sang.
Non, il n'y a rien qui ressemble à une structure artérielle.
Mon avis est que c'est une sorte de tissu cellulaire poreux.
C'est ce que je pensais. Un instant. On dirait que vous décrivez un légume ou une sorte d'herbe.
C'est exact.
Et le cinéma d'horreur, je vous le disais, s'inspire donc de plus en plus de la vie, de nos vies. Et il y a un spécialiste en la matière, monsieur Alfred Hitchcock. Ses films ont créé certains codes qui perdurent aujourd'hui. Les slashers, par exemple. Vous savez, ces personnages masqués qui tuent à l'arme blanche, dont le plus célèbre est sans doute le tueur de Scream avec son fameux masque blanc, reprise encore récemment dans certaines manifestations de protestation à travers le monde. Pourtant, l'origine des slashers remonte à Psychose et cette fameuse scène de la douche, bien qu'elle se déroule dans une baignoire, nous sommes en 1960. Quand je vous disais qu'Hitchcock a influencé le cinéma d'horreur jusqu'à nos jours, c'est aussi par exemple le cas dans les films où la nature se rebelle. Les oiseaux par exemple, même s'il n'apporte pas d'explication à la rébellion de ces oiseaux dans ce village de la côte ouest américaine, c'est bien de cela qu'il s'agit.
Je ne vous comprends pas, Mitch, prendre des mesures. Contre quoi ?
Contre quoi ? Les oiseaux ont envahi la maison.
Ils sont entrés par hasard dans la maison et ont été pris de panique.
Alors j'admets qu'un oiseau s'affole dans une pièce fermée, mais ils n'y sont pas entrés par hasard. Ils y sont venus.
Les enfants jouaient tous ensemble, tranquillement. Les oiseaux les ont attaqués.
Ces deux films d'Hitchcock ont façonné une partie du cinéma d'horreur des années 60 à 1990. Dans Les Dents de la Mer, ce ne sont plus des oiseaux qui terrorisent, mais des requins. Dans Halloween, c'est de nouveau un tueur masqué qui officie. Et plus récemment encore, Alexandre Aja signe Piranhas 3D ou Crawl, dans lequel des alligators sortis de la rivière à la faveur d'une inondation attaquent des humains.
La Floride se prépare à l'arrivée d'un ouragan de catégorie 5. Rassemblez vos familles, vos proches et partez au plus vite.
Fais attention, il y a un alligator.
Ouais, je sais, on a fait connaissance.
Amène-toi, espèce d'enfoiré !
Alexandre Aja qui sera notre invité dans quelques minutes. Restez avec nous, vous allez découvrir le réalisateur français qui fait trembler le cinéma hollywoodien avec ses films d'horreur. On parlera bien sûr avec lui de ce genre. Mais revenons aux années 70 et 80, car c'est à cette période qu'un genre nouveau se développe dans l'horreur, le gore. Cette période est particulièrement prolifique et l'imagination des réalisateurs semble sans limite. On y trouve de tout. Le Rape and Revenge, par exemple, des histoires de jeunes filles qui se font justice en allant tuer elles-mêmes leurs violeurs. C'est le cas de La dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Récemment, le film français Revenge de Coralie Farja traitait aussi de cette même thématique. On pourrait également parler du torture porn avec la saga Saw.
Que le jeu commence.
Le premier est un modèle du genre. Deux hommes se réveillent enchaînés au mur d'une salle de bain. Ils ignorent où ils sont, ne se connaissent pas. Ils savent juste que l'un doit absolument tuer l'autre, sinon, dans moins de 8 heures, ils seront exécutés tous les deux.
Ce que vous faites ne sert à rien.
Quoi ?
Oui, c'est pour ça qu'on est enchaînés. Tout a été admirablement pensé dans les moindres détails.
On dirait que vous admirez ce malade.
Pour arriver à vaincre quelque chose, il faut d'abord comprendre son fonctionnement.
Qu'est-ce qui me prouve que vous dites la vérité ? C'est peut-être vous qui m'avez amené ici !
La fin du siècle dernier voit émerger des cinéastes spécialisés dans l'horreur. Wes Craven, par exemple, on en parlait il y a quelques minutes, bien avant de cartonner avec la série des films Scream, y trouva le succès avec La colline à des yeux, que vous retrouvez d'ailleurs dans la rubrique Star sur Disney+. Et beaucoup de remakes qui ont cartonné ces dernières années sont tirés de cette période. C'est le cas de Massacre à la tronçonneuse, par exemple, ou d'un autre film culte, L'Exorciste.
Quelle excellente journée pour un exorcisme.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Mais cela ne te chassera pas de Regan ?
Cela ne peut que nous réunir.
Regan et toi ?
Toi et nous.
Combien de temps penses-tu rester, Henri Gunn ?
Jusqu'à ce qu'elle pourrisse, s'échelingue à 10 pieds sous terre.
Et les films d'horreur vont aussi s'appuyer sur une production de romans toujours plus riche dans le domaine. Car les années 70 voient par exemple émerger Stephen King. On lui doit 80 adaptations de ses romans par plus de 50 réalisateurs. Shining de Kubrick, Carrie de Brian De Palma, jusqu'à plus récemment, ça.
Bill, si tu viens avec moi, tu flotteras aussi.
Qui a cartonné lors de sa sortie en salle, ce qui lui a valu une suite. Le premier ça a réalisé près de 2 millions d'entrées en France il y a 4 ans.
Arrêtez! Lâchez-le!
Non, lui je l'emmène. Et vous tous, je vous emmène. Et je me gaverai de votre chair en me gorgeant de votre peur.
Et c'est bien simple, dans les années 80, au moins un film d'horreur sort chaque semaine, jusque dans les années 2000, avec le phénomène Scream.
Vous pouvez aller vous faire foutre!
Écoute-moi bien, petite salope. Si tu raccroches encore une fois, je te saigne comme une truie.
C'est une plaisanterie ou quoi?
Disons plutôt un jeu. Oui, c'est ça, un jeu.
Je vous préviens, je trouve pas ça drôle du tout. Si vous continuez, j'appelle la police.
Il vous arriverait trop tard. Voilà ce que c'est que d'habiter un coin paumé.
Mais qu'est-ce que vous me voulez?
Voir la couleur de tes tripes.
Scream qui compte 4 films et un nouveau volet d'ailleurs prévu pour l'année prochaine. Car très vite, les franchises d'horreur se sont multipliées. Saw, dont je parlais, s'est décliné en 7 films de niveau très hétérogène. Il y a aussi un genre dans le film d'horreur dont on n'a pas parlé, ce sont ces films à tout petit budget, nés avec le projet Blair Witch en 1999, des films qui ne coûtent presque rien et qui cartonnent ensuite en salle.
Je regrette, parce que c'était mon projet, et voilà où ça nous a menés. C'est à cause de moi si on s'est retrouvés ici maintenant, affamés et pourchassés. On va mourir ici.
Autre exemple, Paranormal Activity, l'histoire d'un couple qui est persuadé qu'il y a une présence dans leur chambre. Budget, écoutez bien, 15 000 dollars, recette, 200 millions de dollars, 13 000 fois plus. D'ailleurs, le fondateur de la société qui a produit le film, Blumhouse Productions, a une technique infaillible. Il investit au maximum 5 millions de dollars par film. Et il ne les laisse sortir en salle que si les projections test sont des cartons, c'est-à-dire des projections devant un vrai public. La société compte ainsi de jolis succès comme Ouija ou American Nightmare. Mais ces dernières années, le film d'horreur est aussi redevenu politique, pour coller notamment à l'actualité. C'est le cas de Get Out, réalisé par Jordan Peele, l'histoire de jeunes hommes noirs qui disparaissent étrangement, séquestrés par une famille de suprémacistes blancs, une métaphore politique du racisme outre-Atlantique.
Ça fait plaisir de voir un frère dans le coin. Bonjour. C'est exact. Je ne peux vous contredire.
Ah, bonjour. Je suis Philomena.
Chris était en train de me dire que ma présence parmi les convives le réconfortait.
Comme c'est adorable.
Tire-toi. Excuse-moi.
Logan.
Tire-toi. Oh, tire-toi.
Et le film sort très peu de temps après l'élection de Donald Trump. Salué par la critique, Get Out cartonne au box-office et sera même nommé aux Oscars, d'où il repartira avec le prix du meilleur scénario. Alors justement, qu'est-ce qu'un film d'horreur aujourd'hui ? Est-ce toujours aussi rentable ? Comment les codes ont-ils évolué au fil des ans ? J'en parle dans un tout petit instant avec mon invité Alexandre Aja, réalisateur notamment de Haute Tension, Piranha 3D, Crawl, La Colline à des yeux. C'est un Frenchie qui cartonne dans l'horreur à Hollywood. Et on va rester dans l'ambiance en écoutant justement la bande originale des Dents de la Mer. Vous êtes dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1.
Thank you.
Et pour continuer à parler des films d'horreur, à l'occasion notamment du lancement de la rubrique Star sur Disney+, dans laquelle vous en retrouvez un certain nombre, j'accueille maintenant Alexandre Aja. Bonjour.
Bonjour.
Réalisateur notamment de Haute Tension, La Colline à des yeux, Mirror, Piranha 3D, Crawl. C'est le dernier film en salle, il me semble. Ma première question, Alexandre Aja, c'est quoi un film d'horreur aujourd'hui ?
Un film d'horreur aujourd'hui, ça a toujours été une expérience un petit peu à part dans le cinéma. C'est-à-dire, c'est des films qu'on vit avec ses tripes, dont on fait l'expérience. C'est pas des films qu'on regarde. Pour moi, c'est comme ça que je définis, en tout cas, la peur au cinéma. Après, le cinéma de genre, c'est beaucoup plus vaste. Mais vraiment, le cinéma d'horreur, celui qui fait peur, c'est un cinéma qui nous fait oublier qu'on est en train de regarder, mais qui nous fait vivre une expérience unique.
Parce qu'on a l'impression quand même que depuis quelques années, beaucoup de films d'horreur cherchent à avoir une petite dimension un peu politique. Je pense notamment à votre dernier film, Crawl. Il y avait ces alligators qui sortaient du lit de la rivière pour tenter de dévorer une jeune femme, mais ils sortaient du lit de la rivière aussi pour des histoires de réchauffement climatique, etc. Donc est-ce qu'aujourd'hui on est obligé aussi de teinter un peu les films d'horreur de politique ou de société ?
Bah, que ce soit la science-fiction, l'horreur, le suspense, le survival, ça s'est toujours inscrit dans la littérature, mais aussi dans le cinéma, sur avec l'opportunité de parler un peu de la société, de parler un peu des problèmes qu'on rencontre, et surtout de les mettre en image. Alors c'est vrai que ce soit Piranha ou Crawl, il y a un petit sous-texte sur l'écologie, sur la société de consommation, sur le monde dans lequel on vit. La colline des yeux, il y avait un sous-texte sur l'Amérique et sur cette Amérique qui combat les ennemis qu'elle a elle-même créée. Alors à chaque fois, c'est pas évidemment l'objectif, n'est pas de faire des films à message. Et c'est vrai que d'utiliser ces histoires-là pour pouvoir parler de quelque chose d'un peu plus profond, d'amener une réflexion ou d'amener en tout cas une invitation à une discussion, c'est toujours intéressant.
Et vous êtes expatrié à Hollywood pour réaliser ces films d'horreur. C'est qu'aujourd'hui en France, on en fait peu. C'est-à-dire qu'il y a du film de genre français, mais du gros film d'horreur, j'allais dire, à un petit peu plus gros budget. C'est compliqué en France ?
Ça a toujours été assez difficile de pouvoir faire des films d'horreur avec un peu plus d'ambition que, voilà, Haute Tension, c'était deux personnages, une nuit, un tueur. Donc c'était très simple, on pouvait le faire dans une logique de production française. C'est vrai qu'un film comme Crawl ou comme Mirrors ou comme Piranha ou Horns, c'est beaucoup plus compliqué de l'imaginer en France. Alors que par exemple, chez nos voisins espagnols, ça a existé, que ce soit L'Orphelinat ou d'autres, ils ont vraiment réussi. Et nous, je pense que c'est à quelques égards, c'est parce que quand ça vient des États-Unis, quand c'est en anglais, c'est peut-être plus accepté ou plus plébiscité par le public. Et ça c'est dommage. Là, je viens de terminer un film pour Netflix en français, qui est aussi un film de genre, de plus de science-fiction. Et c'est vrai que peut-être qu'avec l'arrivée des streamers et d'enseignes comme Netflix ou comme Amazon ou comme Disney en France, on va pouvoir peut-être réouvrir et faire une plus belle place au genre, parce que évidemment il y a une communauté de fans qui est énorme, et puis surtout il y a beaucoup de réalisateurs et de scénaristes qui ont envie un peu de sortir des sentiers battus du cinéma français.
Si je me trompe pas, le film que vous venez de finir, il s'appelle O2, il y a notamment Mélanie Laurent et Mathieu Amalric au casting. Ce film-là, c'était fait pour Netflix dès le départ, ou c'est parce que les financements sont venus de la plateforme ?
Alors, ce film-là, c'était d'abord un scénario américain au départ. C'est un film qu'on devait normalement produire en anglais, et qu'on devait tourner en Angleterre. Et puis avec le Covid, tout s'est un peu bousculé, les choses ont changé. Et il y a eu une très belle opportunité de pouvoir faire ce film-là, de le préparer pendant le confinement, de le tourner juste à la sortie du confinement, grâce à Netflix. Et c'était, par son sujet, je vais pas en parler trop, mais c'est vrai que c'est un film qui parle de ça aussi. Donc c'était une évidence pour tout le monde, y compris pour Netflix et pour moi, pour le faire en français avec Mélanie Laurent.
Je vais poser une question bête, mais est-ce qu'il y a une technique particulière pour écrire un film d'horreur ? Est-ce que on sait qu'on doit faire sursauter le spectateur toutes les 30 secondes ? Est-ce qu'il y a des ficelles un peu automatiques ?
Alors moi, j'essaie de vraiment le plus possible de jamais réfléchir, ou en tout cas me demander ce que le spectateur va aimer ou ce que le spectateur a envie de voir. Moi personnellement, je suis quelqu'un qui imagine toujours le pire, qui imagine toujours le scénario le plus apocalyptique ou catastrophique possible. Donc c'est quelque part presque un exercice ou un comment dire, un défaut de professionnel de toujours imaginer qu'est-ce qui peut arriver de terrible pour nos personnages et comment ils vont s'en sortir.
Et je voulais aussi qu'on dise un mot, parce qu'on a la radio, du son dans les films d'horreur. J'ai l'impression qu'il y a un travail sur le son qui est presque encore plus important. Alors évidemment, la musique qui doit rythmer les mouvements de tension, mais pas que, un travail sur le son qui est encore plus important que dans certains autres films.
Alors là, au moment où je vous parle, je suis en audi de mix, donc pour finir oxygène. Donc en effet, le son est essentiel. En général, on dit dans un film de terreur que la musique, le son, c'est 50% de l'expérience. Et c'est vrai. Il y a quelque chose d'assez excitant dans le fait que quand on fait un film qui doit faire peur, on peut utiliser tous les outils de la boîte à outils. Et en particulier, le montage son, le sound design, la musique, les ambiances. Souvent, il y a des spectateurs qui acceptent de regarder les images parce que ça leur fait pas peur, mais qui se bouchent les oreilles parce qu'ils ont trop peur de ce qu'ils vont entendre. Donc, en effet, le son est une part essentielle de ce cinéma-là.
Et pour finir, je crois que vous travaillez sur un nouveau projet. J'ai lu un film dont le spectateur est le héros. Ça veut dire quoi ?
Alors il y a une nouvelle technologie qui s'appelle le contrôle, qu'on a pu voir un petit peu justement sur Netflix avec Bandersnatch et Black Mirror et sur Kimmy Schmidt, mais qui est en fait une sorte de film dont vous êtes le héros. C'est-à-dire on est en salle de cinéma, on regarde un film et sur une application sur son téléphone, on va pouvoir choisir sans que le film s'arrête, hein, vraiment caché dans les champs contre champs du montage, on va pouvoir choisir où l'histoire va aller ou quelle décision un personnage va prendre. Est-ce qu'il va ouvrir cette porte ou l'autre ? Est-ce qu'il va être égoïste ?
Mais il faut que tous les spectateurs soient d'accord.
Et c'est la majorité instantanée qui décide. Donc donc on peut voir à chaque fois un film différent. Et une fois qu'on est on est un peu usé de ce processus démocratique, on peut être son propre dictateur à la maison et le regarder seul.
Et ça, vous travaillez avec Steven Spielberg et Mike Flanagan, c'est ça ?
Exactement, exactement. C'est un projet de maison hantée.
Et ça sortira quand ?
Alors là, on est loin, on n'a pas du tout même commencé le tournage, on est en fin d'écriture.
Bon, on a hâte de découvrir ça. Merci beaucoup en tout cas, Alexandre Aja, d'avoir fait un détour par le studio de Clap et d'avoir été en ligne avec nous aujourd'hui.
Merci, merci à vous.
Et je rappelle à nos auditeurs, donc certains de vos films, le dernier s'appelle Crawl, il y a Piranha 3D, Mirrors, La Colline à des yeux, voilà, on se couvre-feu le soir. Si on a envie de se faire peur, on peut retrouver tous ces films en VOD ou sur certaines plateformes. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant, le temps d'accueillir dans ce studio mes collègues critiques. Et justement, on va parler de certains films qui sont sortis en DVD, VOD ou sur vos plateformes cette semaine. On va vous dire quoi regarder ou pas. À tout de suite.
Europe 1.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. On est maintenant en compagnie de Monsieur Cadmerade, bonjour.
Salut Mathieu, comment vas-tu ?
Ça va ?
On se tutoie, hein. C'est le cinéma, c'est la grande famille.
Bon, Cadmerade qui nous fait l'amitié de venir participer à ce questionnaire, les films de ma vie. Est-ce que t'es prêt ?
Oui, je suis prêt, bien sûr. Oui, je vais essayer. Attention, je vais essayer. J'ai pas eu les questions avant, donc vraiment, ça va être spontané.
Plus.
Hein.
Je plus
sois. À l'instinct, comme on dit.
Ton premier souvenir de cinéma ?
Alors, si je remonte. Le cinéma, il me semble que c'est Bruce Lee.
Ah !
Ouais. Dans un centre commercial, il y avait un cinéma à Grigny 2, tu vois, la belle vie. Et avec les potes, on allait voir Bruce Lee et on sortait, on se fabriquait les nunchaku.
Je voudrais voir le directeur de ce dojo, Monsieur Suzuki.
Le directeur n'est pas là. Qu'est-ce que tu lui voulais ?
Je voudrais essayer la boxe japonaise pour voir ce que c'est.
T'en as donc assez de la vie ? Je vais te donner une bonne leçon.
D'accord.
Voilà, ça c'est un vrai souvenir de cinéma.
Et pourtant, t'as jamais tourné dans un film d'art martial.
Non plus. Ça viendra jamais, je pense. C'est trop tard.
Le film que t'aurais aimé voir au cinéma.
Oui, ça c'est une bonne question, ça, cher Mathieu. Il y en a tellement. Peut-être Dr. Jerry, Mr. Love, parce que c'est mon film culte. De Jerry Lewis, que j'ai vu à la télé. J'aurais bien aimé voir ça en public, parce que c'est un film moi, que j'adore, qui est vraiment mon... C'est le film que j'aime le plus, je crois, avec La vie est belle de Capra. Peut-être aussi La vie est belle de Frank Capra aussi.
Et voilà. Jamais eu de reprise de l'un
non,
ou l'autre à la
cinémathèque. Non, j'aimerais bien le voir au cinéma, ouais. Ouais.
Je vous sers quoi, monsieur ?
Oh, voyons que c'est vilain, ça. Je vous sers quoi, monsieur ? Est-ce que c'est une façon de s'adresser aux clients ? Patate, approche, je vais t'apprendre. La politesse est excellente, ça fait baisser la tension et monter les pourboires. Répète. Je vous sers quoi, monsieur? Essaie. On va pas y passer la nuit, allez, mène-toi.
Je vous sers quoi, monsieur?
Joli, c'est pas mal du tout, mais on t'a jamais dit que tu chantes comme une grille d'égout? Alors prépare-moi un dégeleur de banquise boréale et à toute blinde. Allons, vite, vite!
Ça fait partie de ces films qu'on regarde chaque année.
Ouais, que je peux regarder quand j'ai un petit coup de blues, j'adore, sans hésiter.
Ton meilleur souvenir en salle?
Meilleur souvenir en salle. Mon meilleur souvenir en salle, difficile de répondre parce qu'il y a tellement de. Est-ce que c'est, tu veux dire, avec un film dans lequel je suis, par
Ça
exemple?
Ça peut, c'est ouvert.
Oh, bah, il y a eu, par exemple, à Venise, une standing ovation pour le film La Mélodie de Rachid Ami. Et là, j'avoue que j'étais avec les gamins qui prenaient pour la première fois l'avion, qui ensuite se retrouvaient à Venise alors qu'ils viennent des quartiers difficiles. On était tous en costume. Et je ne sais pas si tu connais Venise, tu sais, tu es en haut, perché au balcon, et la salle est en bas, elle s'est retournée après le film. Et là, il y a une standing ovation qui a duré des heures, avant 15 minutes à peu près. Et je me souviens d'avoir vu ces enfants en larmes, émus, et puis ça m'a ému énormément. Et c'est un grand souvenir, parce que le film n'a pas eu de succès après en France, malheureusement.
Parce que c'était un très joli film, où vous appreniez à des jeunes de banlieue...
À jouer du violon, et par contre, à Venise, ça a été un moment incroyable. J'ai gardé la vidéo, je crois, je l'ai toujours sur un petit coin.
Monsieur Simon Daoud, votre professeur de violon.
Bonjour. Est-ce que vous connaissez la musique classique?
Wolfgang Amadeus Beethoven, il a fait le truc là. Tan, 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 tan.
Céline Dion.
Céline Dion.
Mais t'es un imbécile.
Il est doué, Arnold. Il est fait pour la musique.
Stop. Toi, tu vas trop sur la touche.
Il faut tout donner et rendre vos parents fiers de vous. Je compte sur vous, d'accord?
Le pire souvenir en salle?
Ah bah oui, alors ça va être encore un film avec moi, forcément. Je suis obligé. Oh, alors le pire souvenir en salle, je le sais, mais c'est horrible. C'est horrible. C'est la suite de Pamela Rose qu'on a réalisée avec Olivier. Le film sort le mercredi. Et on décide d'aller faire la tournée, d'aller voir dans les salles. Et je me souviens, avec Olivier, on était allé à Montparnasse. C'était la séance de 14h. On est rentré dans la salle. Et deux personnes. Le jour de la sortie, dont un mec qui avait un pochon en plastique, je me rappelle. Je sais pas ce qu'il foutait là. Il y avait un pochon en plastique à côté, dans sa main. Et ils étaient deux à regarder le film. Ils rentrent avec Olivier. On fait ah ouais, d'accord.
On voudrait tourner une suite à Mais qui a tué Pamela Rose. Alors cette fois, les personnages que nous interprétons, les agents du FBI, Bully Terriper, doivent déjouer une tentative d'assassinat sur la prison des États-Unis d'Amérique. On va rien toucher, rien déranger, rien salir. Hein.
Bon alors, c'est d'accord? Yes, you can! Kaboulox!
Là, on a pris une claque dans la gueule, comme on dit. Hein.
Là, on a dit
pris
c'est mal parti.
Ouais. Bah, ça, d'ailleurs, ça s'est très mal passé, mais on l'avait tellement mis dans ce film, tellement. C'est terrible hein, pour ça. C'est terrible pour ça. Mais vraiment, on a pris la grosse claque dans notre gueule, comme on dit.
Le film que t'aimes, mais t'as honte de l'avouer.
Mais ça, il n'y en a pas, ça. C'est marrant, ça. On m'a déjà posé cette question, le film que j'aime, mais que j'ai honte d'avouer, mais.
Ce qui est fou, c'est qu'en général, les gens à ta place répondent un peu des comédies sentimentales ou comme si c'était honteux d'aimer la comédie sentimentale.
Non, moi j'aime vraiment. Non, j'ai pas honte. Alors peut-être j'allais dire même Rambo. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Rambo, par exemple, le premier.
Pas le
évidemment.
Dernier.
Bah non, pas le dernier, évidemment.
C'est terminé. Rien n'est terminé. Rien. Tout continue à cause de vous. C'était pas ma guerre.
Tout ça, c'est du passé maintenant.
Pour vous. Pour moi, la vie civile, c'est rien. Au combat, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici, y a plus rien.
Tu es le dernier d'un groupe d'élite. Ne finis pas comme ça.
Non, mais tu vois, les films avec un peu de testostérone, quoi. Les films où tu réfléchis pas tellement, mais en même temps, c'est un cinéma, c'est un genre. Et puis, heureusement qu'il est là aussi, ce cinéma. Donc, j'ai jamais honte, en fait.
La plus belle scène de cinéma, selon Cadmerade.
Ah bah, c'est peut-être... Peut-être la scène de La vie est belle de Frank Capra. Peut-être quand il rentre chez lui à la fin... Voilà, il a décidé de ne pas mourir. Il a compris que sans lui, le monde serait pourri. Et il rentre et il traverse toute la ville. Et il souhaite un joyeux Noël au magasin. Il est heureux. Il rentre chez lui. Voilà, c'est une espèce de happy end, mais extraordinaire. Ça, je pense que c'est une des plus belles scènes pour moi. Hein.
Construction.
D'ailleurs, je m'en suis inspiré quand j'ai réalisé Marseille.
Ah,
Pour ceux qui ont vu Marseille, il y a une scène où je fais courir un petit gamin qui dit qu'il est content d'aller au Vélodrome, et il le dit au magasin, et je me suis inspiré de cette scène de Capra, en fait, où il court dans la rue et il dit « Je vais au Vélodrome, monsieur le boucher, au Vélodrome !» Et en fait, c'est clairement inspiré de « La vie est belle », voilà.
Le film qui te fait le plus rire ?
Qui me fait le plus rire ? Il y en a plein, hein. Alors, peut-être « La folie des grandeurs
» Tu ris rien que de citer.
Il est l'or. Lors de se réveiller, monseigneur, il est 8 heures.
La folie des grandeurs, oui, parce que je sais pas, mais il y en a plein. Hein. De Funès, moi je suis. C'est fou, hein, quand même. Hein.
Il en manque une.
Vous êtes sort ?
Tout à fait sort.
Alors ?
Qu'on recartonnait pendant le premier confinement,
bah oui,
on était multidiffusé.
C'est très drôle.
Et le film qui te fait le plus pleurer ?
Alors, La vie est belle. Bah oui, parce que la première seconde, comme je sais ce qui va se passer, je pleure avant même de l'avoir vu. Déjà, quand il va chez le pharmacien, quand il se fait... enfin, toutes ces scènes sont incroyables.
Le film que tu conseillerais à ton meilleur ami ?
Bah, j'hésite toujours entre La vie est belle et Jerry Lewis, hein, et Dr. Jerry et Mr. Love. Parce que c'est des films que je trouve importants pour moi. Hein, voilà. La vie est belle, ça... C'est très positif. Si c'est quelqu'un en plus qui va pas bien, par exemple.
Ça peut faire du bien.
Ça peut faire du bien. Je pense que tu sors de là-dedans, tu te dis putain, j'ai envie de bouffer la vie, quoi. C'est terrible.
Et le film que Kadmerat conseillerait à son pire ennemi ?
À son pire ennemi ? C'est pas sympa pour le film. Hein. Bah, je dirais L'arbre aux sabots.
Ah, c'est quoi ça ?
C'est un film qui doit durer 4-5 heures ou 6 heures. Que j'ai vu. Alors, je vais t'expliquer. L'arbre aux sabots, je l'ai vu, j'étais à l'école. Je devais être en 4e. C'était une sortie scolaire. Ça s'appelle L'arbre aux sabots, renseignez-vous. Et je pense que ce film, il doit faire 5 heures.
Vraiment, ou c'est le souvenir que t'en gardes ?
C'est le souvenir que j'en garde, mais je pense que c'était hyper pénible. Peut-être que c'est un chef-d'œuvre. Hein.
Je voulais savoir si je pouvais vous saluer. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous dire bonsoir.
Si c'est seulement pour ça, dame, il n'y a rien de mal.
Et vous, vous me dites rien ?
Ben... Moi aussi, je vous dis bonsoir.
L'arbre aux sabots, renseignez-vous. Je sais plus ce que c'est, je vais regarder sur Internet. Je te jure, c'est vrai.
La bande originale qui a le plus marqué ta vie ?
Shine. Ouais. Ça, je me suis trimballé cette bande originale, d'abord en cassette, mais c'est vraiment une bande originale que j'adore. Je sais pas pourquoi, écoute, c'est très, très mélancolique, très romantique. C'est du piano, c'est de la musique classique. Hein. Tu sais, c'est l'histoire de Shine, du grand pianiste interprété par Jeffrey Rush. C'est lui qui joue ce pianiste. C'est un film magnifique aussi.
Thank you.
Ben merci beaucoup.
C'est tout.
Cadmerat, c'est
tout. Non, ça passe trop vite.
C'est déjà pas mal. Merci d'être venu nous rendre une petite visite dans Clap.
Ouais.
Sans actualité particulière avant non plus, donc c'est vraiment encore plus sympa.
Oui, ben écoute, en même temps, pour être honnête et dire vraiment la vérité aux gens, je venais faire une autre émission à Europe 1
et
tu m'as chopé dans le couloir. Donc ne mens pas aux gens non plus. Hein.
Bon, allez, vous pouvez repartir.
Salut, merci Mathieu.
Nous, on se retrouve dans
vive
un instant.
Vive le cinéma. Hein.
Pour la suite de Clap, vive le cinéma, justement, le temps d'accueillir mes collègues critiques. Et on va vous donner quelques conseils en DVD, VOD ou sur vos plateformes de films à voir ou pas d'ailleurs. À tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et ils m'ont rejoint dans le studio de Clap pour cette dernière partie de l'émission. C'est déjà presque la fin. Fabrice Leclerc de Paris Match, Thierry Chaise de Première. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
On va parler aujourd'hui de Radioactive. C'est signé Marjane Satrapi, ça arrive sur MyCanal. De Miss, dont on avait parlé dans notre récit il y a quelques mois, qui arrive en DVD, que je vous conseille. Du film aussi I Care a Lot, ça c'est sur Netflix. Et de Mon Inconnu, d'Hugo Gélin, ça aussi je suis sûr que vous allez en dire du bien. Mais on commence avec Radioactive, signé Marjane Satrapi, et dans le rôle de titre, on en parlera dans deux films aujourd'hui, Rosamund Pike.
J'ai lu l'article que vous avez publié. Il est d'une exceptionnelle valeur scientifique.
La science est en train de changer, et ceux qui la dirigent aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui étaient convaincus que la Terre était plate.
Veuillez quitter mon laboratoire.
Si ma science ne suffit pas, alors c'est que vous l'avez très mal comprise. Je vais prouver qu'ils ont tort.
Alors Marjane Satrapi, pour ceux qui l'auraient oublié, elle avait été popularisée grâce à son formidable Persepolis, Radioactive. Je pourrais le résumer en deux lignes, hein. C'est un biopic consacré à Marie Curie. Alors si j'en dis un petit peu plus, bah, vous vous rappelez sans doute que c'est elle qui a découvert avec son mari Pierre la radioactivité, devenant la première femme d'ailleurs à recevoir le prix Nobel de physique puis de chimie. Donc voilà, c'est un biopic très très classique sur la forme. On commence dans le Paris de la fin du 19e siècle. Marie, jeune scientifique, passionnée, émérite, qui n'arrive pas à mener ses recherches dans cette société patriarcale. Heureusement, elle fait donc la rencontre de Pierre. Il va tout plaquer pour l'aider, monter leur propre laboratoire. C'est le destin d'une femme. Bon, est-ce qu'on a une plus-value, Thierry ?
Non.
Est-ce qu'on a une plus-value, Fabrice ?
Non.
Bon, d'accord. Film suivant. Non, allez, c'est... développez, Thierry.
C'est vraiment le problème, c'est que...
C'est bien fait.
C'est... Oui, mais on attend de Marjane Satrapi évidemment un peu plus que quelque chose de bien fait, un travail de faiseur, entre guillemets. Et là, on a véritablement que ça, avec quelques moments très gênants. La reconstitution de la bombe atomique, par exemple, des choses comme ça, parce que, attention, cette invention est bien, mais elle a quand même des défauts. C'est le bénéfice-risque, on appelle ça comme
voilà,
ça maintenant.
Ça.
Je trouve que tout ça est tellement scolaire. Alors, oui, il y a Rosamund Pike, mais ça tombe bien, cette semaine, il y a un autre film, vous pouvez l'avoir.
On va en parler.
Et non, moi, j'ai été vraiment très déçu par le fait, je trouve qu'il n'y a pas d'angle réel,
oui.
Que c'est un récit. Finalement, j'aurais préféré voir un documentaire d'une heure, plutôt qu'un film d'une heure et demie, qui m'a paru deux heures.
Mais qui paraît deux heures, mais si j'essaie de sauver le film, il y a quand même, je trouve en tout cas, des jolies scènes de laboratoire, il y a une petite mise en scène, après c'est l'histoire derrière Fabrice.
Non,
il me regarde en disant non.
Je sais pas, mais... Moi, j'ai eu l'impression de voir un film, vous savez, les films qu'on voyait à l'école quand on était jeune et qu'en cours de sciences nat ou de physique, on nous disait bah, tenez, vous allez regarder ce film-là et ça va vous raconter Marie Curie. Ok, mais voilà, Marjane Satrapi, quand même, on pouvait attendre autre chose.
C'est un film de commande.
Même si ça n'est que, pour moi, la réalisatrice que d'un seul film qui est Persepolis, et depuis, elle n'a quand même pas fait grand film. Et
mais elle a tenté des choses.
Ultra scolaire. Et ce que dit Thierry, c'est extrêmement vrai. Qu'est-ce que c'est lourd ! Oh là 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 ! Si vous n'y aviez pas compris les tenants et les aboutissants de la bombe et de la radioactivité, excusez-moi du peu. Non, c'est vraiment un film qui n'est pas très réussi, extrêmement consensuel, extrêmement lourd, extrêmement mou. Il n'y a pas grand-chose à sauver quand même. Hein.
Bon, on ne perd pas de temps. Alors, Radioactive, vous trouvez ça, si toutefois vous avez envie de le découvrir, sur MyCanal. On va prendre un peu plus de temps parce que là, j'espère que vous allez le défendre pour parler de Miss, signé Ruben Alves, qui avait une carrière malheureusement avortée en salle à cause du dernier confinement et qui sort en DVD VOD.
Debout là-dedans !
Je vais faire Miss France.
C'est garçon ?
Ben voilà, c'est ça, oui.
J'ai besoin de ton aide.
T'aider à quoi ?
Mais à devenir Miss France.
Non, je suis très sérieux.
D'accord.
Pourquoi voulez-vous devenir Miss France ?
Pour devenir quelqu'un.
Alors Miss, on suit Alex, qui est un personnage qui navigue entre les genres. C'est un garçon, il n'a pas du tout envie de changer de sexe, mais il aime s'habiller en femme et explorer sa part de féminité. Dès l'âge de 9 ans d'ailleurs, Alex rêvait d'être Miss France. 15 ans plus tard, alors qu'il stagne dans sa vie, qu'il a perdu ses parents, il décide de réaliser son rêve. En cachant évidemment son véritable sexe, il se présente au concours de Miss France. C'est vrai qu'au premier abord, on se demande si cette histoire est plausible et si ça va fonctionner. Moi, je trouve que oui. Et ce qui fait en partie la beauté du film, c'est sans doute que ce personnage d'Alex est joué par un certain Alexandre Véter, qui est lui-même androgyne, qui avait défilé pour Jean-Paul Gaultier, et qui, je trouve, moi, porte un film qui n'était pas facile à porter sur le papier et qui raconte beaucoup de choses de notre société. Fabrice, Miss.
C'est un feel-good movie qui en a entre les oreilles, pour ne pas dire ailleurs, parce que c'est vraiment un film culotté qui impose ce truc. Voilà, je suis un garçon. Alors oui, je suis un peu androgyne, mais peu importe. Mais je veux surtout faire le concours Miss France et je vais y arriver. Et il y a dans ce cinéma, comme dans le cinéma de Ruben Alves, le metteur en scène qui avait déjà fait La Cage Dorée, ce goût et ce talent du feel-good movie, du film extrêmement populaire, du film un peu chatoyant. Par moments, on a l'impression de se retrouver dans 10%. Et puis, qui par moments balance des espèces de scuds extrêmement peu conventionnels et peu consensuels, qui est vraiment intéressant. C'est un film qui ose, c'est un film qui dit plein de choses sur la différence et sur le respect de la différence. Et surtout sur le fait qu'on assume sa différence. Alexandre Véter est extra. Thibaut de Montalembert, dans le rôle d'un travesti. Pourquoi il n'a pas été nommé au César, expliquez-moi. Pourquoi le film n'est pas nommé au César, expliquez-moi. Voilà. Et puis une petite apparition d'Amanda Lear. Non, vraiment, c'est un film qui est fait pour tout le monde et qui va parler à beaucoup de gens, ce qui est rare.
Et je pense qu'il aurait pu avoir une belle carrière en salle s'il n'y avait pas eu ce satané confinement, Thierry.
Ouais, le goût du populaire. Et c'est très compliqué, je trouve. Il y a tous les obstacles possibles, a priori. On va dire, on va nous faire chialer. Reconstituer Miss France, c'est la cata assurée. Et en fait, tout marche parce que moi, j'ai l'impression de voir un cinéaste, un scénariste, très à l'aise avec son sujet, très sûr de ce qu'il va raconter. Donc, à partir de là, il n'y a pas de fausse manière.
Ouais, il assume, il y va.
Et ça balance, ça balance pendant tout le film.
Il y a des moments vraiment drôles avec la communauté qui entoure sur les terres, Isabelle Nanty et les autres, qui apportent des moments. Et puis, lorsqu'on doit être dans l'émotion, on y est, mais on n'a jamais l'impression qu'on vous tord le bras. Moi, vraiment, c'est la preuve que La Cage Dorée n'était pas donc du hasard. Oui. Des années sont passées, et bien ça recommence de la même manière. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, Mathieu. C'est typiquement le genre de film qui aurait dû voir énorme succès.
Qui aurait un beau bouche à oreille.
100 000 entrées avant la fermeture des salles.
C'est bon, rattrapez-le.
Vraiment, rattrapez-le, ça sort en DVD ou en VOD. Vous savez, VOD payante, pour 4-5 euros un soir, vous pouvez vous le louer. Et sincèrement aussi, regardez-le avec vos ados en famille pendant ces vacances, si vous êtes encore en vacances ou si vous commencez vos vacances. Vraiment, ça vaut le coup, ça s'appelle Miss et c'est signé Ruben Alves. Bon, messieurs, vous ne vouliez pas de Marosa Moon Pike en Marjane Satrapi, je vous la propose dans un nouveau film qui s'appelle I Care a Lot, et ça débarque sur Netflix.
Madame Peterson, je m'appelle Marla Grayson, je travaille en collaboration avec Karen Amos, votre médecin.
Vous êtes docteur ?
Non, madame, vous pouvez lire ceci ?
Excusez-moi, mais je ne comprends pas bien ce que c'est.
C'est une ordonnance du tribunal.
Dieu du ciel, est-ce que j'ai commis une infraction ?
Oh non, madame, c'est en votre faveur. La cour a jugé sur avis de votre médecin que vous aviez besoin d'une assistance au quotidien. Et après délibération, le tribunal m'a désignée comme tutrice légale.
Waouh, c'est un truc de dingue.
Madame, vous devez venir avec moi.
Donc, dans ce film, Rosamund Pike joue cette fois Marla. C'est une tutrice spécialisée dans la gestion de biens. Aidée par son amante et une médecin, elle repère les personnes âgées, très riches, s'arrange pour les faire passer pour des vieux séniles incapables de gérer eux-mêmes leur fortune. Et dès que la justice confirme la tutelle, paf, Marla les arnaque pour mener une vie de luxe. Sauf qu'un jour, elle va tomber sur Jennifer Peterson, une petite dame au profil parfait en apparence, richissime, sans famille, mais qui cache en fait de lourds secrets et qui va lui donner un peu de fil à retordre. C'est drôle, cruel, Fabrice.
I care a lot, I don't give a shit, je pourrais vous dire ça. Excusez-moi.
Ils ne sont pas d'accord.
Alors, on est dans le film prétendu féroce, dans la satire féroce de la façon dont sont traités les seniors américains et la façon dont des gens abusent d'eux en devenant leurs tuteurs, en les mettant dans des EHPAD qui sont aussi dans la combine avec des juges qui sont quasiment aussi dans la combine. Ok, super. Le couple, c'est un couple de lesbiennes parce qu'il faut faire un peu tendance et inclusif. Ok, on y est. Et on part dans un espèce de truc à la pseudo-Tarantino matinée de John Hughes qui part dans le grand n'importe quoi, dans une histoire de mafia russe. Non, mais attendez. Il y a un moment, c'était une super idée, cette satire du système de santé américain, de la façon dont on traite faussement bien les seniors aux États-Unis. C'est un vrai sujet, c'est une vraie histoire. Mais mon Dieu, que ce film... et trop de tout et trop dégoulinant de pseudo-férocité. Vraiment, c'est très, très raté. Et moi, ça m'a limite excédé. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais...
Non, pas du tout. Quand il n'aime pas, au moins, c'est clair. Thierry, je crois que c'est tout l'inverse.
Non, et moi, j'ai beaucoup aimé. Alors moi, je n'y ai pas vu un film à message. Mais alors, c'est sûr que si c'est un film à message, c'est raté. Ah non, moi, j'y vois d'abord ce qu'on appelle un character movie, un film de personnages et un film... Tout à la gloire de Rosamund Pike. Et ça, c'est vraiment, enfin, ça fait longtemps, et depuis Gone Girl, parce que ça rappelle finalement le rôle qu'elle tenait dans Gone Girl, cette capacité à être à la fois tellement sympathique, tellement, voilà, froide, et de faire des choses terribles. Je dirais pas faire, je dirais cruelles. Il y a des moments où on se sent en effet mal dans les premières scènes, et après... ça devient une comédie.
Mais c'est pas une comédie. Téléphoné. C'est tellement téléphoné, tout arrive gros comme une maison au bout d'un quart d'heure.
Tout pourrait arriver gros comme une maison, sauf qu'il y a quelqu'un qui l'incarne et qui d'un seul coup fait des variations à l'intérieur de tout ça, qui rend ça extrêmement plaisant. Peter Dinklage en second rôle. Évidemment, des gens ont dit Peter Dinklage joue un mafieux russe. Bon, ben voilà. Mais c'est ça qui est formidable, justement. Ça ne cherche pas à être Tarantino. Et d'ailleurs, les scènes de course-poursuite...
Si, ça le cherche. Ah, excusez-moi, ça le cherche.
C'est pas ça, Tarantino.
Attendez, c'est du Tarantino du dimanche soir sur France 3.
Il n'y a pas le jeu avec la musique. C'est du Tarantino quand même. Il n'y a pas le jeu avec la musique. Il n'y a pas cette férocité et cette cruauté chez Tarantino.
On est bien d'accord.
Il n'y a pas ça. Là, il y a... Non.
C'est plus pervers.
C'est la différence entre pervers et cruel. Le film, chez Tarantino, c'est plus pervers. Moi, j'ai trouvé ça absolument réjouissant. Voilà. Mais... Je n'en tire pas une leçon sur le système américain du traitement des personnes âgées.
On ne vous mettra pas d'accord. Le mieux, c'est que nos auditeurs aillent regarder I Care A Lot sur Netflix. Puis voilà, ils se feront leur avis. Ils verront s'ils préfèrent la vie de Thierry ou la vie de Fabrice. Là, j'espère qu'on va tomber d'accord, messieurs, pour mon dernier film du jour, Mon Inconnu, réalisé par Hugo Gélin, avec au casting François Civil, Joséphine Japy, je vais y arriver, ou Benjamin Laverne, ça arrive sur OCS.
Qu'est-ce que t'as, Raph ?
Hein ?
Depuis hier, t'es hyper bizarre.
Ça sert à rien, tu vas me prendre pour un fou.
Dis-moi.
Depuis hier matin, je suis plongé dans un monde parallèle où toute ma vie a changé.
Faut que tu m'aides à retourner dans ma vie d'avant, Félix. Tu peux faire ça ?
Ok.
Ça y est, je la vois. Qu'est-ce que je fais ?
Bon, écoute, regarde son cœur.
Hein ?
Morgane, quand je l'ai regardé pour la première fois, elle m'a dit qu'elle avait senti comme une flèche.
Mais arrête avec tes flèches, là, ça marche pas, je te dis. Ça marche un peu. Elle me regarde.
Et voilà ! La flèche !
Hugo Gélin, vous savez, il a ce talent de faire des films à la trame souvent assez dramatique, mais dont je trouve vous ressortez toujours avec le sourire. En l'occurrence, c'est l'histoire de Raphaël, qui est un écrivain à succès, il est marié à Olivia, qui vit un peu dans son ombre, elle aime le piano, mais elle doit renoncer à sa carrière pour que son mari s'accomplisse. Sauf qu'une nuit d'orage, magie du cinéma, il se réveille et les rôles sont inversés, c'est-à-dire que Raphaël est devenu un parfait inconnu, ce n'est plus l'auteur à succès du début, alors qu'Olivia, elle, est une pianiste célébrée dans le monde entier, et surtout... ils ne sont plus en couple. C'est-à-dire que quand il va vers elle, elle lui dit bonjour monsieur, elle ne le reconnaît pas. Évidemment, Raphaël va tout faire pour retrouver sa vie d'avant et essayer de la reconquérir, bien que je vous laisse découvrir la suite. Et je trouve en tout cas que la fin est très réussie, sans trop en dire, parce que ce n'était pas facile de s'en sortir. C'est une comédie romantique classique, mais qui fonctionne de mon point de vue, Thierry.
Entièrement d'accord. Ah. Entièrement. Ça se voit, ça se revoit avec plaisir.
Ouais, c'est ça.
On dit souvent, ah, il n'y a que les Britanniques qui savent faire ça. Non.
Les Américains.
Les Américains. Hugo Gélin sait le faire parfaitement parce que, en effet, à partir de cette trame classique que vous avez résumée, il y a toutes les variations possibles. Il y a le fait qu'on soit très vite attaché au personnage, à ces deux-là, et puis au meilleur copain joué par un immense Benjamin Laverne, dont une scène qui rappelle celle du dîner de cons, notamment au téléphone, fait que vous pouvez le revoir 25 fois rien que pour ça. Mais la difficulté, c'est que lorsqu'on rit autant, comment ensuite revenir dans des choses plus émouvantes ? Est-ce que ça ne va pas être déséquilibré par ça ? Eh bien non, parce que le scénario tient, parce qu'il y a deux acteurs, François Civil et Joséphine Japy, absolument admirables avec une alchimie totale, qui fait que vous vous régalez de la première. En effet, elle a très réussi la dernière minute.
Alors, Hugo Gélin, quel talent ? Parce qu'il a un talent de cinéphage. Je vais m'expliquer. Hugo, c'est pas un cinéphile, c'est un cinéphage. Il a mangé du cinéma hollywoodien, français, évidemment, par sa famille connectée à Yves Robert, à Daniel Delorme et à la famille Gélin. Et il arrive à faire un melting pot de tout ça. Mon Inconnu, c'est une histoire d'amour. Ouais. C'est un film tendre, c'est un film... très émouvant, très touchant, extrêmement drôle par moments, avec notamment Benjamin Laverne. Il y a un souci dans l'écriture. D'ailleurs, le film avait été coécrit par Benjamin Parent, qui a fait un autre bon film qui s'appelle Un vrai bonhomme. Et on est transporté. Voilà, c'est du cinéma français. On voit pas souvent comme ça un cinéma français qui mêle les genres. Ça commence dans un thriller fantastique.
Ouais. Au début, on se demande un peu sur quoi on est tombé. Ouais.
Et ça joue avec le temps, ça joue avec plein de choses. Vraiment très très bon film. Oui, qui se revoit. Joséphine Japy, voilà. Bon. Joséphine Japy, voilà, c'est tout ce que je dirais.
Non, mais vraiment, j'insiste auprès de nos auditeurs, mais Mon Inconnu, Miss, tout ça, pendant ce confinement, on a ce couvre-feu.
Du feel-good movie.
Exactement, vous regardez ça le soir, vous le regardez là, en l'occurrence, c'est sur OCS, ou vous le louez à l'acte en VOD, vous le trouvez facilement sur vos écrans, et vraiment, je vous assure que vous sortirez de ce visionnage avec le sourire. Et ça fait du bien.
Et ça fait du bien. Et comme ça, pas besoin de voir I Care a Lot sur Netflix.
Arrêtez. Donc, I Care a Lot sur Netflix, Mon Inconnu sur OCS, Miss, c'est en DVD, VOD et Radioactive, on l'a un peu éclipsé. Ça, c'est sur My Canal. Merci beaucoup, messieurs. Fabrice Leclerc, Paris Match, Thierry Chaise, première. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine, 14h, 15h, pour un nouveau numéro de Clap, émission que vous retrouvez évidemment en podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des petites étoiles, à commenter. On lit tous vos commentaires. Une émission réalisée par Nicolas Baudin et préparée par Marjorie Adelson. Europe 1.